Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour Conseil, Formation, Communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de trois choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là, et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts? On y va? Je vous emmène avec moi? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur le podcast Parler et être écouté. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Émilie Loi. Donc Émilie Loi, à la base, elle était joueuse de tennis professionnelle, donc de 1994 à 2009, hein, c'est bien ça Émilie?
C'est ça.
Tu as eu ton meilleur classement en simple, 27e en 2004. Meilleur classement mondial. Tu as été championne de France des 17-18 ans en 96. Donc, tu fais partie d'une bonne fournée, je crois, hein, la fournée des 79, qui a fourni plusieurs joueuses au nombre de 5, donc, dont celle que vous connaissez le plus, je pense, c'est Amélie Mauresmo. Puis, après tout ça, tu as fait une reconversion professionnelle. Donc, tu es passée de joueuse de tennis à consultante. Et c'est pour ça que j'ai pensé à t'interviewer pour le podcast Parler et être écoutée. Pour parler de ça, comment est-ce qu'on fait une reconversion comme ça, qu'on passe d'une activité qui est vraiment tennis, voilà, je vais pas dire qu'on parle pas, mais oui, on tape dans la balle, on est sur la stratégie, mais on n'est pas sur la prise de parole. Consultante, donc tu as travaillé pour Eurosport, la radio numérique RTL, l'équipe, et j'ai vu dernièrement aussi qu'avec la FFT, tu fais des petites vignettes vidéo, l'appel d'Émilie Loi. Donc, j'ai trouvé ça rigolo de regarder. Donc, tu nous en diras quelques mots. Émilie, déjà, la première question que j'aimerais te poser pour nos auditeurs, c'est comment on passe de joueuse de tennis à consultante pour Eurosport et tout ça?
Disons que petite, avant de jouer au tennis, je voulais être journaliste. Alors, c'est drôle, ça m'est vite sorti de l'esprit, mais quelque part, c'est peut-être resté dans un coin de ma tête. L'avantage quand on joue au tennis, c'est qu'on fait des interviews. Alors certes, tu as nommé Amélie Mauresmo notamment, qui était très, très, très sollicitée. Forcément, moi, beaucoup moins, ce qui est complètement logique. Mais quand même, après chaque tournoi du Grand Chelem, après chaque match, il y avait les premières interviews avec les journalistes. Et j'ai toujours bien aimé ce moment parce que c'était un moment déjà de première analyse de la rencontre, premier débriefing. Et j'aimais bien ce contact avec eux. Je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai fait ma carrière. Donc, en plus de ces interviews avec ces journalistes, on était invités sur des plateaux. Certes, c'était quand même moins, on va dire, moins populaire parce que maintenant, tu as tout ce qui est podcast, c'est pas toi que je vais dire ça, ou toutes les plateformes d'interview qui peut y avoir. Mais bon, à l'époque, j'ai fait quelques petits plateaux sur l'équipe, etc., et quelques radios. Et ce qui fait que quand j'ai arrêté en 2009, j'avais vraiment ça dans un coin de ma tête. Et puis après, c'est un concours de circonstances. C'était Benoît Mélin, je ne sais pas si tu le connais, mais un journaliste qui m'avait dit quelques temps auparavant, écoute, on bossera ensemble quand tu arrêteras. Donc peut-être qu'il avait... identifier ou quelques qualités en moi. Donc ça, c'était super cool. Mais bon, entre ce que les gens peuvent dire et raconter à un moment dans une carrière et puis après la réalité, parfois, il y a un énorme écart. Et il s'avère que quand j'ai arrêté, Benoît, je l'ai croisé. Le jour même, d'ailleurs, de mon élimination à Roland-Garros et de ma retraite.
D'accord.
Tu te souviens ce que je t'ai dit il y a 2 ans, qu'on bosserait ensemble. Est-ce que tu seras OK pour bosser justement sur RTL l'équipe avec moi et avec Eric Silvestro, qui est le présentateur? Et là, je lui dis, écoute, bien évidemment, banco. Et puis voilà comment ça s'est fait. On a passé une année tous les jeudis matins. C'était fabuleux parce que ça s'appelait carrément tennis, donc on parlait tennis.
Ah oui.
Parallèlement à ça, j'ai fait Eurosport très vite parce que une amie, Sarah Pitkowski, bossait, était consultante sur Eurosport, avait monté parallèlement sa boîte de relations médias, avait son premier enfant, je crois, était enceinte du deuxième, enfin je ne sais plus, mais en tout cas était surbookée et m'a dit, est-ce que tu veux me remplacer si Eurosport est OK quand moi je ne peux pas me rendre disponible pour commenter les matchs? Pareil, je dis coup de banco, puis il s'avère que bah, j'ai arrêté en juin et qu'elle a arrêté Eurosport fin d'année de cette même année-là en 2009. Et puis
D'accord,
voilà,
tout se
c'était quelques années.
goupillait super bien en fait. Hein. C'était le chemin était
Fabuleux.
tracé. Hein. Des fois, c'est voilà,
Tout à
c'est le bon
fait.
moment. Bon bah génial. Ok, donc du coup, en fait, finalement, tu avais déjà des premières brides où tu t'entraînais au final. Hein. Tu jouais au tennis, mais tu avais déjà des interviews qui te mettaient déjà en condition de répondre. Et puis, quand on est joueuse de tennis comme ça, on a quand même des conseils, je crois, qui nous sont donnés pour savoir comment répondre aux interviews. Est-ce que
Maintenant, il y a des conseils parce que maintenant, les joueurs et les joueuses, moi-même, j'ai fait intervenir certaines personnes à la Fédé, à la DTN, pour justement former les jeunes, ou BNP Paribas le fait à travers ces différentes actions. Et ce qui fait que maintenant, c'est vrai que les jeunes sont conseillés et quelque part accompagnés dans la réponse de comment répondre déjà aux questions. Parce qu'après aussi, il faut que dans la réponse, il y ait quelque chose aussi d'assez sympa. Il faut éviter, c'est vrai que bon, je pense souvent les joueurs de foot, toujours pareil, on pense au collectif, il faut qu'on se remette au travail. Je veux dire, des banalités comme ça
ouais, c'est
marche.
ça. Ouais.
Quand on est dans un sport, on va dire populaire, ou quelque part, bon, bah, quelle que soit la réponse, bon, de toute façon, il y aura toujours des interviews. Après, le tout, c'est quand même d'amener quelque chose de sympa aux journalistes et à l'auditeur, de peut-être d'un petit peu différent, mais en tout cas d'attractif pour que, bah, pour attirer un petit peu, quoi.
C'est ça. Donc à l'époque, toi, tu n'avais pas ce conseil-là. C'était plutôt spontané, naturel. C'était ce que tu avais au fond de toi. Et c'est peut-être ce qui a attiré finalement la personne qui t'a recruté, quoi.
Ouais, peut-être. Après, c'est vrai que j'aimais bien cette relation avec eux, donc ça s'est toujours bien
Oui.
passé. C'était toujours, voilà, c'était professionnel, mais à la fois amical. Moi, j'ai rencontré à chaque fois des gens super bienveillants. Donc voilà, alors que franchement, il y a des périodes, bah, bon, dans une carrière où tu es complètement à la rue totale, où tu joues très très mal,
Ouais.
où tu peux, voilà, avoir de grosses critiques. Donc voilà, non, ça s'est toujours bien passé. Et puis voilà, j'en suis très contente.
Bon bah super. Alors, tu sais, moi je donne aussi des cours de prise de parole en public, du coup à des étudiants, et je leur dis toujours quelle est votre intention? Quelle est l'intention? Qu'est-ce que vous voulez délivrer comme message? Toi, au final, tu étais joueuse de tennis professionnelle, j'imagine que tu es toujours passionnée par ce sujet. Est-ce que le fait de connaître ton sujet, ça t'aide dans ton métier de consultante, du coup?
Ouais, forcément. Alors aujourd'hui, je suis plus consultante en tant que telle, parce que maintenant, je bosse au service communication à la Fédération française de tennis. Mais quelque part, c'est un virage qui va dans le sens de ce que j'ai fait en étant consultante. Maintenant, j'anime plus. Donc, quand j'étais consultante, je parlais tennis, je parlais coup droit, je parlais revers.
Oui.
J'estime qu'à un moment donné, au début, ça va parce que tu t'es fraîchement retraitée, donc tu es encore vraiment au contact du tennis. Je trouve que très vite, à partir du moment où tu pratiques plus, même si tu connais le sport, je trouve que tu es un peu moins, je sais pas, un peu moins précise. Et puis, voilà, commenter des Djokovic, des Federer et tout, je me sentais quelque part pas trop à ma place, quoi. J'étais un peu
D'accord.
gênée par rapport à ça. Donc, assez vite avec Eurosport, après, on n'est pas allé au-delà, mais j'ai voulu passer du côté journaliste, c'est-à-dire en gros, bah, faire de la présentation et mettre en avant, en fait, mon consultant, enfin, le consultant. Et
D'accord.
aujourd'hui, c'est ce que je fais. À la Fédé de tennis d'une manière sûrement différente. Donc, je fais les fameux appels d'Émilie que tu as évoqués en introduction, où
Oui.
là, je mets en avant les joueurs et les joueuses qui ont bien joué la semaine qui précède l'interview. Et sinon, comme je fais pas mal d'animations, que ce soit en interne, de présentation. Là, il va y avoir, il y a eu le. Comment ça s'appelle? La FFT en direct avec le président de la Fédération française de tennis. Et la directrice générale et des journalistes. Voilà, ça j'ai animé et ça, c'est des choses que j'adore. Donc, en gros, moi, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est de donner la parole,
D'accord.
de poser la question qui va bien pour que la réponse soit bonne. En général, je pars du principe que, alors après, tu es toujours dépendant de ton interlocuteur, mais si la question, elle est bien foutue, elle est bien orientée, on peut imaginer que la réponse va être assez sympa. Ne jamais se relâcher et dire, ah, non, la réponse, ou alors mon interlocuteur, il n'était pas très bon. Je pense que les deux, en fait, ont une.
Oui.
Les deux doivent aussi se remettre en question. Ce n'est pas que l'interlocuteur, c'est peut-être que la question n'a pas été suffisamment bien posée ou suffisamment bien orientée.
Tout à fait, c'est une synergie entre les deux personnes et la personne qui pose la question y est pour beaucoup, effectivement. Oui. Alors, est-ce que justement par rapport à cet exercice, là, ce nouvel exercice que tu réalises, en fait, tu le fais depuis quand du coup?
Bon, là, ça fait un an.
Ça
Ouais.
fait un an, donc oui, on peut dire que c'est assez récent du coup. à trouver le plus intéressant au début? Donc, tu évoques le fait de poser les questions, la bonne question, avoir la bonne réponse. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cet exercice-là?
Ce qui me fait vibrer, c'est quand ça se termine, en fait.
Oui, d'accord.
Non, parce qu'il y a aussi, pendant Roland-Garros, j'ai une émission, il y a une émission quotidienne que j'anime. Et forcément, en fait, ce qui me fait vibrer, c'est la préparation. En fait, la préparation, elle est sympa. Elle est assez un peu stressante parce que le jour J, tu ne sais pas trop comment ça va se passer. Ouais. Et même si là, maintenant, j'ai l'habitude, rien ne remplace de toute façon la répétition et le fait de le faire de façon récurrente. Si tu le fais qu'une fois par an, là, c'est compliqué.
D'accord.
C'est comme tout, il faut de l'entraînement.
C'est super ce que tu dis parce qu'on le répète souvent. Pour la prise de parole en public, je te coupe juste 3 secondes. Avec les autres personnes que j'ai interviewées, la répétition, effectivement, c'est ce qui ressort souvent.
Oui, ouais, parce que tu vois, il y a 2-3 ans, je faisais l'émission. Donc une quotidienne pendant 15 jours à Roland-Garros, et il est vrai que j'ai progressé parce que à côté de ça je fais d'autres interviews, je fais d'autres présentations. Là par exemple, bon, même si le podcast va être diffusé plus tard, je te parlais de la FFT en direct, c'est demain soir, donc là je suis en pleine phase de préparation.
D'accord.
Mine de rien, c'est une émission, il va avec des internautes et des intervenants. Ça c'est quelque chose qui me sert aussi d'entraînement pour Roland-Garros qui va arriver très très vite pour l'émission. J'ai fait une présentation en interne il y a une semaine de ça, pareil, avec beaucoup de préparation. Ça me sert d'entraînement et de, même si ce sont deux exercices qui sont quand même un peu différents, mais mine de rien, il y a quand même de l'introduction, de la conclusion, il y a
des
témoins, etc. La répétition, l'entraînement, c'est indispensable pour progresser. Et d'ailleurs, je vois, alors j'espère, j'ai l'impression, parce que je suis toujours très... très dur avec mes analyses, avec moi-même.
Ah bah ça, c'est les sportifs de haut niveau, ça.
Ouais, j'ai une bonne marge de progression et là, je sens que je suis en train de progresser, que je suis plus fluide parce que je m'exerce et je le fais de plus en plus.
Voilà, puis tu le ressens aussi et plus tu es fluide, plus tu te sens bien dans cet exercice-là, j'imagine.
Je me sens mieux. Après, en plus, c'est aussi, on apprend à se connaître parce qu'au début, on écrit tous les textes à la moindre virgule. Après, tu te rends compte que peut-être que ce n'est pas la chose qu'il faut faire. En fait, ça, c'est propre à chacun. Moi, je connais des journalistes, j'ai des copines journalistes qui écrivent à la moindre virgule et qui arrivent à te ressortir le truc avec un naturel incroyable avec la moindre virgule. Moi, je me suis rendu compte que quand je faisais ça, je perdais un peu mon naturel et le côté... le côté spontané. Donc voilà, en tout cas je sais que j'écris tous mes textes,
ouais,
ça c'est sûr, avec la moindre virgule.
D'accord, donc ça c'est comme ça que tu fonctionnes.
Ouais, j'ai toujours peur d'avoir un trou de mémoire.
D'accord, ok.
Et j'ai un gros défaut, c'est que je me souviens pas des prénoms et des noms, mais c'est un truc de ouf.
Ah oui, oui. Mais t'es pas la seule.
Ouais. Mais même, je dis n'importe quoi, même le président de la République, Emmanuel Macron, je sais que je peux avoir un bug sur Novak Djokovic et tout, des trucs de fou. Et là, c'est je vais pas m'en servir, mais je sais que si j'ai un souci de stress, parce que le stress te fait perdre la mémoire quand même,
ouais, tout à fait.
Focaliser sur ta tension, sur ton stress, et ce qui fait que tu en oublies l'essentiel. Au moins, je sais que j'ai ma petite feuille. S'il y a un problème technique, j'ai ma feuille, parce qu'il peut y avoir un problème technique. Donc, pas de lancement de sujet, etc. Et puis voilà, c'est vrai que là, pour répondre encore plus à ta question, de par l'expérience, c'est qu'avant, quand tu as des problèmes techniques ou des sujets qui ne partent pas ou qui partent mal ou qui se stoppent en plein milieu de sujet, ça peut arriver. C'est que quand tu n'as pas l'habitude de le faire, tu te dis, putain, qu'est-ce que je vais dire ?
C'est ça, tu paniques. Là,
j'arrive à mieux, enfin, c'est pas encore parfait, mais en tout cas, à rebondir.
Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à la mémoire, c'est marrant parce que hier, j'ai interviewé un spécialiste de la mémoire. Donc, du coup, je diffuserai le lien il n'y a pas très bientôt, mais il s'appelle Vincent Delourmel. Et en fait, il parlait de la visualisation. Est-ce que tu utilises un petit peu ?
Ouais, un petit peu. Ouais.
Voilà. Donc, lui, il expliquait la visualisation, qu'il mettait en place non seulement le fait de visualiser, mais aussi de se déplacer, comme s'il se déplaçait dans sa maison. Et en se déplaçant dans une pièce, il pense à une des informations qu'il va donner, puis une autre. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi pour les prises de parole.
Ouais, j'ai fait un petit peu, ouais. Je fais de la visualisation, puis je fais beaucoup d'hypnose aussi. Donc, l'hypnose me sert à...
C'est quelque chose que tu faisais déjà dans le sport, j'imagine, parce que...
Ouais, l'hypnose visualisation à fond. Ouais.
Quel lien, justement, pour en revenir à ce point-là, tu fais entre quand tu étais justement sportif de haut niveau et la gestion du stress et ce que tu fais là dans la prise de parole? Est-ce qu'il y a une ou deux petites choses que tu as piquées ou tu as gardées de ce que tu faisais quand tu jouais?
Ouais, le stress, il est toujours là, ça c'est sûr. Le palpitant qui monte à 180 au moment de la prise d'antenne, ça, j'arrive à mieux à le gérer, c'est-à-dire que ça dure moins longtemps qu'auparavant. Ce que j'ai gardé, après, il y a des choses que tu gardes, mais rien ne remplace le travail constamment. Hein. C'est-à-dire que l'hypnose, j'en ai fait, moi j'ai 42 ans aujourd'hui, j'ai commencé, j'avais 22 ans, donc ça fait, j'ai 20 ans de travail, entre guillemets, derrière moi. Après, j'arrive en fait à ce que je faisais en tennis, c'est dans les moments importants, c'est déjà, il faut que le stress, ça devienne ton ami et plus une angoisse. C'est-à-dire que quand tu ne travailles pas, tu dis, putain, je suis stressé, je ne vais pas réussir à servir, je ne vais pas réussir à faire un coup droit, j'ai les jambes qui tremblent, je ne vais pas y arriver. C'est exactement la même chose que la prise de parole où tu es debout, si tu es debout devant toute une assemblée. Bah là, tu as les jambes qui tremblent, tu as les bras aussi. Donc, si tu as le micro, c'est bien bloqué ici. Bah, ça, vous connaissez les techniques et tout pour être comme ça. Et là, ça te permet de bloquer. Tu peux même serrer. Voilà, et du coup, ton stress ne rejaillit
C'est
pas.
une espèce d'ancrage, quoi. Je suis ancrée, du coup,
Ouais,
j'ai
tu es
plus
ancré au
à.
sol, les
Voilà.
appuis. Pensez au. Bon, c'est des conneries, mais au doigt de pied, le gros doigt de pied, hein, c'est à vraiment le rentrer dans le sol. Et du coup, bah, tu te focalises là-dessus. Donc, tu n'as plus les jambes qui tremblent. Et ce que je me suis servi du tennis, c'est d'essayer vraiment d'être dans l'inconscient dans des moments, dans les moments en fait chauds, etc. En fait, tu récites de façon un peu robot. Ça ne se voit pas, mais en fait, parfois, tu peux oublier. Souvent, même, je me rends compte que quand je réécoute, quand je me revois, j'ai oublié des passages, parce qu'en fait, j'étais en auto-hypnose, tout simplement.
Ouais, du coup, ah oui, donc du coup, tu étais dans un autre au monde presque.
Ça se voit pas.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins et que tu compenses par autre chose dans cet exercice-là que tu fais maintenant?
C'est-à-dire.
Des choses que tu trouves moins intéressantes au niveau de la prise de parole ou de l'interview que tu mets en place, le côté moins palpitant, moins. Tu vois, je t'ai parlé d'abord de ce que tu préférais et maintenant,
Ouais.
là, ce que tu aimes moins.
Qu'est-ce que j'aime le moins?
S'il y en a, hein, peut-être que rien,
Ouais,
peut-être.
peut-être ce que j'aime le moins, c'est faire des sujets, hein, c'est différent, mais des sujets vidéo sur des thèmes qui m'excitent moyen.
D'accord.
Vraiment, ce que j'aime, c'est à la limite. Vraiment, ce que j'aime, c'est faire parler l'autre et l'écouter et de ressortir en fait une ou deux anecdotes ou deux trucs sympas qu'il a raconté. Et ça, j'adore. Par exemple, des Alizé Cornet, c'est fabuleux. Des
Ouais.
Julie, tout ça. Il y a vraiment des gens qui sont canons, qui sont des canons
Ouais.
interviewés. C'est ce que j'aime moins. Dans l'interview, j'aime à peu près tout. Ce que j'aime moins, c'est. Ouais, dans l'interview, les sujets qui me passionnent moyen.
D'accord, ok. Oui, bah parce que du coup, là, tu es moins dans l'intention de voilà, d'être
Ouais,
animé par ton sujet, moins
ouais, je suis
animé par
moins
ça.
animée. Du coup, bon, maintenant j'ai quand même plus de billes et je suis
Voilà.
quand même un peu plus armée.
C'est ça.
Tout ce qui est bilan carbone, etc., j'ai pu faire avec notamment le président du tournoi, directeur du tournoi de Strasbourg, Denis Naegelen.
Ouais.
Lui, a un événement 100% éco-responsable. Je l'ai fait en podcast d'ailleurs pour mon podcast perso. J'ai adoré parce que du coup, j'ai
Voilà,
appris des choses.
c'est ça,
J'ai
tout
appris des
à
choses.
fait.
Donc, le fait, alors c'est vrai que je me contredis un peu, mais le fait d'avoir plus de maîtrise un peu, je commence à être
Non, je comprends ce que tu dis. Pour moi,
passionnée, je sais pas, mais ouais.
pour moi, c'est pas une contradiction. C'est ce que je dis souvent, c'est que plus on maîtrise son sujet, meilleur on est au final. Donc,
Ouais,
à
et tu
mesure où
commences
on
à tirer une
maîtrise, voilà,
contrainte.
quand on maîtrise pas et qu'on aime moins bien, mais après, quand on y trouve un intérêt, ben, peut-être que effectivement, on est meilleur. Ben, écoute, Émilie, merci beaucoup en tout cas
Bah, merci à toi.
pour toutes ces questions, pour tous ces éléments qui, je pense, seront intéressants pour nos auditeurs. Donc, d'habitude, je commence toujours par la petite histoire de comment je connais les personnes, et puis là, j'ai oublié, donc je vais le faire à la fin, hein, c'est pas grave.
Vas-y.
Donc moi j'ai travaillé du coup avec ton mari à la Ligue des Hauts-de-Seine de tennis et j'ai eu l'idée, je me suis dit bah tiens ce serait intéressant d'interviewer Émilie, d'autant plus qu'on est voisines maintenant depuis quelques temps et du coup d'une passion commune qui est le tennis et voilà et j'avais interviewé une autre personne qui s'appelle Éric Allard qui a parlé aussi du rapport entre le sport et la prise de parole puisque lui il était entraîneur de champion, enfin il a emmené l'équipe de bobsleigh, pardon, française aux Jeux Olympiques. Et du coup, il est devenu conférencier. Donc, c'est toujours intéressant aussi de faire le rapport entre des gens qui ont été sportifs de haut niveau et la prise de parole. Et là, voilà, je pense que les auditeurs pourront en retirer quelques éléments.
Et après, je pense, pour terminer, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise sur la prise de parole. C'est compliqué, hein, attention, parce que quand on parle devant même 10 personnes, parfois même 2 personnes, c'est jamais évident, que ce soit une présentation ou une prise de parole. Moi, je suis persuadée, intimement convaincue, que ça se travaille. Alors, certes, c'est dur parce qu'il y a aussi une forme de... Ce qui est compliqué, c'est que quand on se vautre ou qu'on n'y arrive pas, et après, il y a la confiance en soi qui en prend un coup. Du coup, tu te dis, putain, je suis pas bonne, ou je suis pas bon, je suis pas à l'aise. Du coup, tu as une tendance à avoir des critiques et puis d'avoir une image de soi qui n'est pas dingue. Et c'est ça qui est hyper dur dans cet exercice, c'est que c'est quelque chose qui se voit et qui s'entend. Donc, c'est dur pour les gens de se dire, mais attends, mais là, je suis vraiment pas bon, je suis pas bonne. Et du coup, bah, ton ego en prend un coup. Moi, je suis persuadée qu'en le travaillant, alors certes, ça demande du temps, ça demande du travail, c'est des trucs tout cons, mais de se regarder devant sa glace et de le faire déjà avec soi-même, devant la glace. Franchement, tout le monde, hein, je suis intimement convaincue, pour progresser. Et puis une fois que tu y arrives un peu, bah, du coup, je trouve que tu as une estime de toi qui est... et un
Meilleur.
regard sur soi-même qui est meilleur. Donc voilà, pour moi, quel que soit le niveau que les gens ont, le travail, c'est compliqué. Et accepter, en fait, d'être pas bon devant les autres. Parce que moi-même, je fais des formations tous les ans pour rester à niveau. Putain, je me prends des trucs de stress.
Ah oui.
Mais devant des gens, parce que je dois faire un duplex. Tu sais, duplex, c'est pas un truc
Ouais,
hyper...
simple.
hyper simple, et du coup de se mettre en difficulté devant des gens, c'est dur. Mais en fait, il faut passer ce cap-là
Ça.
pour ensuite être meilleur et y arriver. Voilà.
Sortie de zone de confort.
Ouais, tout à fait. Mais c'est pas facile.
C'est ça.
Okay.
Bon, bah merci pour ce conseil. Le
Pas
conseil
de
est
rien.
dit. Et du coup, merci à toi.
À
Et puis,
bientôt.
je te dis à très vite. Au revoir.
Bonne continuation. Ciao, ciao.
Merci. Bye bye.
Parler et être écouté. Le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.